Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin. Merci parce que par elle, tu nous instruis. Seigneur, merci pour cette œuvre que tu veux faire dans nos vies également. À travers elle, nous voulons, Seigneur, ouvrir nos oreilles ce matin et notre cœur et recevoir les choses qui viennent de toi. Donne-nous, Seigneur, le discernement et donne-nous, Seigneur, l'obéissance chaque fois que cela est nécessaire que nous changeons. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, le message porte sur la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Vous n'allez pas être surpris, c'est la suite de la semaine dernière. Alors peut-être direz-vous, ben quand même on est à Pâques, est-ce qu'il y a vraiment un rapport de ce texte avec Pâques? Ben oui, quand même, parce que ce que nous avons lu la semaine, il y a deux semaines déjà, dans le chapitre 5, au verset 6 de la première aux Corinthiens, nous lisions ceci. Quand l'apôtre donnait des arguments pour que l'église de Corinthe se ressaisisse, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors, vous savez que les Israélites étaient encouragés à pendant 7 jours, il y avait l'immolation, la fête de Pâques, et ensuite la semaine de la fête des pains sans levain, et ils ne devaient trouver aucune trace de levain dans les maisons. Et donc, l'apôtre Paul nous encourage, nous aussi, à ce que on ne trouve pas de traces de péché dans nos vies, pas de traces de malice, de méchanceté dans nos cœurs. Et Dieu voulant que le verset que nous allons explorer et le contexte et les applications que nous allons explorer ce matin puissent contribuer à cela, à préparer nos cœurs pour cette fête de Pâques. Alors, un seul verset ce matin. C'est le dernier verset que nous avions vu la semaine dernière, donc dans votre Bible, la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Verset 12, je vais le lire dans différentes versions. Ensuite, on regardera un peu le vocabulaire en détail et on regardera les applications. La seconde 21 l'exprime ainsi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Dans la Bible du Semeur, tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Ou bien, je ne veux pas être l'esclave de personne. Parole de vie. Certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dans la seconde, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et dans la NBS, finalement, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Tout m'est permis, tout m'est autorisé, tout est possible, mais tout n'est pas utile, avantageux, tout n'est pas meilleur. Ça n'a pas le sens de quelque chose de utile dans le sens de pratique, mais plutôt dans le sens que nous trouvons ici dans la Bible, par exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous le dis en vérité, dit Jésus, il vous est avantageux, il vous est utile que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc c'est ce sens-là. Et l'apôtre Paul utilise le « je ». Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage. C'est un « je » qui est fort, c'est « ego ». Et souvent c'est traduit par « moi, je ». Dans Matthieu 5, 28 par exemple. « Mais moi, dit Jésus, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, par exemple. » Vous savez, les « moi, je » que affirme le Seigneur Jésus. Des questions du verbe « asservir », « être esclave », « ne pas se laisser dominer ». Donc ce mot « servir », c'est être sous une autorité. C'est être dominé par quelque chose, c'est apparenté au mot « permettre ». C'est quelqu'un qui a des permissions sur vous. Certaines traductions traduisent le mot « esclave », mais ce n'est pas dans le sens de « esclave serviteur », mais dans le sens de « esclave », une personne qui est dominée. Et donc, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi, ou à quoi que ce soit d'avoir autorité sur moi. Là, le sens général, c'est quelqu'un, ou personne, c'est parfois quelque chose aussi. Matthieu 5, 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, etc. Jésus, en Matthieu 24, 4, prenez garde que personne ne vous séduise, c'est ce même mot. Et Jean 8, 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et donc c'est ce petit mot que nous trouvons ici, à la fin de notre verset. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit, je ne me laisserai pas être l'esclave de personne. Bien sûr, on comprend dans le contexte de la parole de Dieu, sauf le Seigneur, sauf le Seigneur. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit, sauf le Seigneur, cela va de soi. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui et si nous portons le bon nom de chrétien, c'est parce que nous avons volontairement pris Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il nous a lavés, sanctifiés, justifiés. Il est tout pour nous et nous sommes à lui. Avec les apôtres et tous les autres chrétiens, nous pouvons confesser « Christ est ma vie ». J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si nous appartenons à son royaume, nous sommes en sécurité tout au bénéfice de son amour et de sa bienveillance. En effet, Jésus-Christ est celui qui assure par excellence. Dans quel contexte est notre verset ? Nous verrons la semaine prochaine le passage qu'il introduit très bien. Ou la semaine prochaine ou une autre fois, puisque la semaine prochaine c'est Pâques. Et nous allons maintenant voir les applications, comment on peut appliquer ce verset au contexte qui précède, ce que nous avons vu la semaine dernière, avec cette question de procès entre enfants de Dieu. Comment ce verset peut nous aider pour prévenir l'injustice entre nous? Le chapitre 6, donc juste avant, verset 8, Paul écrivait aux Corinthiens, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Le problème de l'église de Corinthe, certes, ils faisaient des procès, ils s'amenaient dans les procès devant les païens, devant le monde, pour régler leurs litiges. Mais le problème de fond, c'est qu'il y avait des problèmes entre eux. Il y avait de l'injustice dans l'église de Corinthe. À Figeac, on n'est pas en procès les uns contre les autres. Merci Seigneur. Mais peut-être avez-vous, à une occasion ou à une autre, ressenti un profond sentiment d'injustice à l'encontre d'un frère ou d'une sœur. Ce sont des choses que vous avez peut-être vécues, expérimentées. Et on va essayer de nous placer dans des situations pouvant déboucher sur des cas d'injustice. Alors j'ai retenu trois scénarios, il peut y en avoir d'autres, trois scénarios pour réfléchir ce matin. Le prêt. Faire un prêt, recevoir un prêt. Cela peut être un prêt d'argent, de biens, de temps, de choses précieuses. Psaume 37, 26 dit « Le juste est toujours compatissant et il prête et sa postérité est bénie. » Il paraît que la force de l'économie juive est dans la pratique du prêt sans intérêt, dans la solidarité sans faille au sein de la communauté. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi ?» Sur le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 42, mais attention, il s'agit ici d'une attitude à avoir, dit Jésus, envers ceux du dehors, surtout envers les ennemis et les méchants. Alors, comment ça se produit concrètement? Comment ça peut se produire? Est-ce que tu ne peux pas me dépanner de 200 euros? J'ai un décès dans la famille, j'ai un parent malade. C'est le week-end, je dois chercher ma fille qui est en garde alternée, j'ai plus d'essence dans la voiture. Je te rendrai cela la semaine prochaine quand je suis payé, toutes sortes de situations qui se présentent à nous de la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux me prêter ta voiture pour faire une course à Leclerc? Une semaine, deux semaines passent et l'argent ne revient pas. La voiture est revenue, mais voilà, elle a une aile cabossée. Qui va payer la réparation? Voilà des situations injustes. Premier scénario, un prêt. Deuxième scénario, un mauvais conseil. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous connaissez peut-être ce proverbe séculier. Achète cette voiture! Elle est super, il y a ceci, il y a cela, regarde. Ou bien, dans cette situation, c'est pas normal. Il faut pas laisser faire. Moi, à ta place, je ferai ceci, je ferai cela. Et plus tard, la voiture, la belle voiture, se trouve être une voiture trafiquée ou volée. Et le « moi, à ta place », lance une machine infernale qui va conduire un couple au divorce. Un mauvais conseil. Autre situation, un cœur pillé. Un cœur pillé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous, prescrit Salomon dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Hélas, les difficultés de l'existence, le besoin d'amitié, l'élan dans une conversation, et voilà que nous dévoilons notre cœur à des oreilles indiscrètes. Il y a des choses plus graves aujourd'hui qui se passe, paraît-il, surtout parmi les ados, où On dévoile son corps. Derrière les facilités des nouvelles technologies. Et plus tard, on s'aperçoit que la chose s'est répandue partout, que ça fait le tour de l'église, ou même davantage. Un cœur pillé. Un cœur pillé. Vous savez, l'histoire de Samson et de Delilah. Samson avait un secret qu'il cachait à Delilah, cette courtisane qui ne cherchait qu'une chose, connaître le secret de Samson pour pouvoir se saisir de lui et le rendre inoffensif pour les Philistins. Delilah, voyant que Samson lui avait ouvert tout son cœur, envoya chercher les princes des Philistins et rasa les tresses de la tête de Samson, ce qui signa sa perte. Trois situations. Comment notre verset du chapitre 6, verset 12, peut-il s'appliquer à ces situations? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, avantageux, intéressant. Je ne me laisserai pas asservir par rien ni personne, sauf le Seigneur. La question du prêt. Je suis dans le besoin. C'est tout à fait possible de demander de l'aide. Pourquoi ne pas profiter de cette possibilité? Si le frère ne peut pas, il me le dira. Est-ce une bonne idée d'emprunter de l'argent à mon frère? C'est une solution de facilité, certes, mais est-ce que c'est bon pour moi? J'appartiens au Seigneur. Dois-je contracter une dette au nom du Seigneur? Le Seigneur a dit qu'il prend soin de moi. Est-ce cohérent de demander de l'aide ailleurs avant de lui demander à lui? Dois-je pas, en toute première chose, rechercher le secours de mon Seigneur, qui a promis qu'il prendrait soin de moi? On vient me demander quelque chose. Est-ce que je vais vraiment aider cette personne à lui prêter ce qu'elle me demande? Est-ce la meilleure des choses à faire? Est-ce que la relation que j'ai avec mon frère ne sera pas modifiée si je lui donne ce qu'il demande? Est-ce qu'il ne va pas être dévalorisé à mes yeux? Est-ce que je ne vais pas prendre du pouvoir sur mon frère? Pouvoir qui revient à Jésus seul? Ai-je le droit de me substituer au Seigneur? Alors on est libre d'accepter ou de refuser, mais notre choix ne sera jamais neutre. Il va toujours y avoir des conséquences. Que Dieu nous accorde sa sagesse. Par rapport aux mauvais conseils, qu'est-ce qui fait que le conseil de ce frère est bon? Qu'est-ce qui fait de lui un bon conseiller avant que de me saisir de son conseil? Quel est le conseil de mon Seigneur? Qu'est-ce que je trouve dans sa parole? Et si on me demande conseil, est-ce que mon expérience peut être utile à ce frère? Quel est le risque que je lui fais prendre? Pour quelle raison je souhaite l'aider? Notre cœur est en effet des fois tortueux. Quelles sont mes motivations profondes? Le cœur pillé, j'ai besoin de quelqu'un. Mais qu'est-ce que j'espère en ouvrant mon cœur, en cherchant quelqu'un pour ouvrir mon cœur? Puis-je avoir confiance à la personne? Finalement, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121. C'est lui mon roi. Avant d'ouvrir mon cœur à autrui, ai-je ouvert mon cœur à Jésus? Ai-je ouvert mon cœur à Jésus? Quelqu'un qui m'ouvre son cœur. Suis-je capable de recevoir les confidences de ce frère? Est-ce que je suis prêt à souffrir avec lui? Est-ce que je suis prêt à prier pour lui? C'est une responsabilité. Quelques conseils maintenant contre le virus du péché qui attaque la communion fraternelle. Je n'ai que des masques en tissu à vous proposer. C'est bien modeste, mais comme on dit, c'est peut-être mieux que rien. Que le Seigneur nous vienne en aide et que le Seigneur sanctifie mon propos maintenant. Concernant le prêt, j'ai besoin d'aide, que faire? Vous avez compris, d'abord se placer devant le Seigneur. Toute démarche doit être un acte de foi. Un acte de foi devant le Seigneur. Recourir à une personne sage, de confiance, pour exposer la situation. Les besoins financiers ou les autres besoins peuvent être des réalités objectives ou pas. Et on peut recevoir des conseils salutaires. Surtout, on peut bénéficier de l'intercession d'un frère, je dis souvent le mot frère, mais ça s'applique aussi aux sœurs, d'un frère, d'une sœur bienveillante. Il y a aussi la possibilité de la confession. Il peut y avoir une foule de raisons qui conduisent un frère dans la détresse. La confession va permettre peut-être à l'Église de faire un don. Si c'est possible, bien sûr. Ou bien ça va peut-être permettre des dons anonymes qui vont préserver la communion fraternelle. La confession, avouer la situation dans laquelle on se trouve, ça peut être une porte de secours. Bon, au pire, bien sûr, il y a les professionnels du prêt, les banquiers. C'est péché de ne pas engager, honorer ses engagements, de ne pas rembourser ses prêts. Mais un banquier ne va pas se retrouver sur la paille si vous manquez une échéance. Mais par contre, si vous n'honorez pas un engagement pris envers un frère, vous pouvez vraiment le mettre dans une grande difficulté. Donc, comme on dit, il y a des professionnels qui s'occupent des prêts d'argent. On vient me demander quelque chose. Que faire? Alors, un conseil, donner plutôt que prêter. Mon frère ne me devra plus rien, ni moi non plus. Pas de risque de procès. La somme que je vais pouvoir donner sera plus faible, mais la communion sera préservée. Mon frère et moi conserverons une pleine liberté. Il n'y aura pas création d'un lien de dépendance entre nous. Si je prête quelque chose, je peux la considérer comme perdue. Je prête la voiture et lorsque je la vois partir, il faut que je sois prêt à ne plus la revoir. Si mon attachement à ma voiture est très fort, pour des raisons légitimes ou pas, si j'ai des empreintes dessus, si c'est un souvenir de famille, si c'est un outil de travail, il vaudra mieux que j'explique pourquoi je ne peux pas la prêter. Que faire enfin quand je me suis mis dans des problèmes, lorsque je me retrouve en mauvaise situation, À cause d'un engagement que j'ai pris envers mon frère, quelque chose que j'aurais fait envers lui, peut-être par manque de sagesse. Que faire pour se sortir de cette situation-là? Je vais lire dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 1 à 5, un conseil de Salomon. La parole de Dieu pour nous. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Ce qui concerne les prêts, et maintenant, pour moi, se prévenir des mauvais conseils, qu'est-ce qui me motive à donner mon bon conseil? On a tous des bons conseils, il y a des situations, puis on a toujours le bon conseil qui nous saute à l'esprit comme ça pour notre frère, pour notre sœur, spontanément. Qu'est-ce qui me motive à donner un bon conseil? Est-ce que c'est pas la jalousie? Est-ce qu'il n'est pas orienté, mon conseil? Est-ce que c'est pas un moyen de dominer sur lui? Suis-je prêt à accepter que mon conseil ne soit pas suivi sans rancune, sans amertume? Notre cœur, pardon, est bien tortueux, hein? C'est la parole de Dieu qui le dit. Le conseil de l'Évangile, par contre, est toujours bien reçu. Il y a quelque chose que l'on peut faire quand on ne sait pas quoi faire. On peut rappeler l'Évangile. Je ne veux pas dire par là rappeler à notre frère son péché. Là aussi, rappeler à quelqu'un son péché, c'est quelque part profiter de la situation, dominer sur lui. On aime tous le chant, redites-moi l'histoire de Jésus, vous savez? Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Et on a cet autre chant, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Les passages de la Bible qui rappellent l'Évangile de Timothée 2,8, souviens-toi de Jésus-Christ. Jésus est toujours un très bon sujet de conversation. Cela fait du bien de discuter à propos de Jésus. Et si on arrive à tourner les yeux vers Jésus, certainement, on va trouver le bon conseil, on va trouver certainement la paix, la quiétude et les idées claires pour prendre de bonnes décisions. Et puis il y a également le secours de la prière, bien sûr. Je ne sais pas quoi te conseiller, mais je vais prier pour toi. Je vais prier pour cela. Voilà des choses précieuses, de précieuses contributions que l'on peut apporter à un frère qui viendrait nous demander secours. L'ensemble, bien sûr, accompagné de foi. La question du cœur pillé. Il y a, je pense, un principe absolu de respect de la propriété d'autrui qui, in fine, appartient à Dieu. Le cœur de notre frère, le cœur de notre sœur, appartient à son Seigneur. On ne fait pas n'importe quoi avec, bien évidemment. Si je reçois une confidence ou si j'entends des propos qui relèvent du domaine privé d'une personne, prudence, tout ceci n'est pas à moi. Cela appartient à mon frère et derrière mon frère, il y a le Seigneur. Il est toujours possible de confier une situation à Dieu pour en être déchargé. Là aussi, la prière et la foi. Et quand tout va mal, quand une situation est hors de contrôle, que faire? Nous avons, en tant que chrétiens, l'extraordinaire ressource du pardon. Le pardon est la clé qui débloque les situations les plus douloureuses. Vous en avez fait l'expérience. Demandez pardon. Accordez le pardon. Recevoir le pardon. Pardon est réparateur. Il y a aussi la médiation, ce qu'on a vu la semaine dernière. Pour sortir un conflit, on peut faire appel à un médiateur, quelqu'un de sage, dans l'Église, pour poser la main entre nous. Et il y a le dépouillement qu'on avait vu aussi la semaine dernière. Un jour, j'ai reçu un conseil d'un pasteur qui était âgé. C'est le pasteur qui m'avait amené jusqu'à Jésus. Et il m'a dit ceci. Dans les conflits, la victoire appartient à celui qui s'humilie le plus. Le vainqueur sera celui qui s'est le plus humilié. Alors nous allons prier. Seigneur Jésus, merci de ton bon conseil. Merci pour ta parole. Merci pour la sagesse que l'on trouve dans ta parole, la parole de Dieu. Merci parce que tu as dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et il lui donnera. Merci parce que tu donnes généreusement ce dont nous avons besoin et nous avons besoin de sagesse. Que nous soyons, Seigneur, à ton écoute, prêts à nous humilier pour recevoir les instructions et les enseignements qui viennent de toi. Et ta parole est remplie de conseils de sagesse pour toutes les situations de la vie. Seigneur, pardon. C'est si facile de se faire du tort les uns aux autres dans la famille de Dieu. On a tellement besoin de rectifier les choses, on a pu faire du tort à un frère et une sœur un jour. On a pu mettre des frères et des sœurs dans des difficultés alors qu'ils étaient généreux envers nous. On les a bien mal, comment dire, récompensés. On leur a fait du tort. Pardon. Pardon, Seigneur, pour ces mauvais conseils que j'ai pu donner. Pardon pour mon manque de délicatesse, pour mon manque de discrétion. Pardon parce que j'ai pu blesser profondément en agissant ainsi. Dans le nom de Jésus, amen. Je propose maintenant un chant. Pardon. Seigneur, pardon. C'est le numéro 608.